Le feu est aux portes de Paris. Un incendie touche la forêt de Fontainebleau et son ampleur est exceptionnelle. Les flammes ont déjà parcouru 1000 hectares. 6 avions et plus de 800 pompiers sont mobilisés dans une région qui n'est pas habituée à de tels feux. Les incendies de cette saison ont déjà fait plus de dégâts que ceux de l'année dernière, avec plus de 32 000 hectares brûlés au total. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois Guillaume Péguer, membre de l'Office national des forêts, où il est en charge de la prévention des risques. Je l'interroge donc sur ces incendies qui touchent désormais de plus en plus le nord de la France. Comment s'y préparer? En modifiant la physiologie des forêts, déjà, et en mettant en garde les citoyens, 90% des départs de feu étant d'origine humaine. Au sujet de celui de Fontainebleau, le ministre de l'Intérieur dit d'ailleurs qu'il pourrait être d'origine volontaire. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
Seulement à une vingtaine de mètres des flammes qui continuent donc de se propager aux abords de la forêt de Fontainebleau. Alors ces flammes, elles ne sont pas forcément très hautes, elles font entre 1 mètre et 2 mètres, mais ce qu'on rend compte, c'est que la surface qu'elles sont en train de brûler est extrêmement impressionnante.
Le feu est repéré aux alentours de 17h, ce dimanche 12 juillet. Il s'est déclenché du côté de la commune de Noisy-sur-l'École. On est en Seine-et-Marne, à 60 km au sud de Paris. En quelques heures, le feu parcourt plusieurs hectares. Une portion de l'autoroute A6 se retrouve coupée. Puis les flammes atteignent la forêt de Fontainebleau. Il y a quelques chênes, mais surtout des pins. Comme dans le sud de la France, des arbres qui brûlent vite, leur résine étant un excellent combustible, leurs pommes de pin faisant office de bombe incendiaire, capable de propager le feu à une centaine de mètres. Un danger d'autant plus important que la forêt de Fontainebleau est une forêt habitée, 50 000 personnes environ.
C'était vraiment un mur de flammes qui était très impressionnant et qui avançait très vite en forêt. Et qui est arrivé au contact des premières maisons qui sont en lisière.
Michel Calmy est le maire de Vaudoué, un village qui borde la forêt.
Certains ont été relogés provisoirement dans les villages alentours, hein, puisque on avait des villages comme Achères, Uri, La Chapelle-la-Reine et Milly-la-Forêt, qui nous prêtaient évidemment des salles qui ont été mises à notre disposition avec des lits, et donc on a pu les orienter. Et puis un grand nombre, seulement, qui ont pu partir chez des amis ou en famille dans les villages alentours, ou pour les résidences secondaires, éventuellement, repartir dans leur résidence principale.
D'après le ministre de l'Intérieur, 900 personnes se retrouvent évacuées. Pas vraiment pour les protéger des flammes, puisqu'aucune habitation n'a pour l'instant été touchée. Il s'agit surtout de les éloigner des épais panaches de fumée sombre qui montent de la forêt. À l'heure où j'enregistre ce podcast, l'incendie n'a pas fait de blessés. 500 pompiers sont sur place pour lutter contre les flammes, mais la forêt ne facilite pas le travail, comme l'explique le commandant Paul Laurin, chef du service communication des pompiers du département.
Le relief est escarpé, donc difficile d'accès pour les piétons. Elle est plutôt réputée pour les sentiers de randonnée et les circuits d'escalade, parce que justement la présence de rochers fait qu'elle est plutôt sympathique en balade. Néanmoins, pour des sapeurs-pompiers qui doivent tirer des tuyaux et circuler en véhicule, c'est absolument pas adapté, d'où le fait que ça soit particulièrement complexe.
L'objectif des pompiers, fixer le feu, qu'il cesse sa propagation. Alors qu'il a déjà parcouru 1000 hectares, 5% de la surface de la forêt, les pompiers sont aidés d'hélicoptères bombardiers d'eau, mais aussi de 4 canadaires, 6000 litres chacun, qui se ravitaillent en écopant la Seine, en passant au ras de l'eau. Il y a aussi les Dash, plus volumineux, 10 000 litres, mais qui doivent passer par des aéroports spéciaux pour se recharger en eau ou en produits retardants. Ces aéroports, ce sont des pélicandromes. Les plus proches se trouvent à Châteauroux ou à Angers. François Pitrel, journaliste environnement BFM TV.
Parce qu'on est à Fontainebleau, aux portes de Paris, et on voit bien d'ailleurs que ces avions Dash, ils ne se ravitaillent pas à côté de Paris, parce qu'il n'y a pas de pélicandrome juste à côté. On n'a pas l'habitude d'intervenir aussi, autant au nord de la France. Et donc, on a quelques stations de ce type dans l'ouest, il y en a une dans le nord, mais c'est inédit à ce niveau, à ces latitudes-là.
Il y a pourtant déjà eu des feux au même endroit, notamment en 1967. Un exercice nommé Inferno a même été organisé en juin 2025 pour se préparer. Mais le feu est inédit par son ampleur. La région n'est pas habituée à de tels feux de forêt.
Bah écoutez, le feu qui a démarré en fin de journée a évolué de façon très inquiétante.
Lieutenant-colonel Franck Maillard de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
C'est du jamais vu. Il y a encore quelques jours, la région centre connaissait ses premiers largages d'avions dans la Sologne. Là, cette fois-ci, c'est la forêt de Fontainebleau. C'est assez emblématique. Il y a quelques années, on n'aurait jamais pensé avoir le feu aussi près de chez nous. Hier, ça brûlait dans le Nord, ça brûlait dans le Pas-de-Calais, ça brûlait dans la Manche, ça brûle partout en France. Et là, nos moyens sont mobilisés sur tous les fronts.
Quant à l'origine du feu...
Sur un incendie qui a démarré en plusieurs points hier, en fin d'après-midi, dont deux points de part et d'autre de l'autoroute A6. Et il y a eu une dizaine de points de départ de feu dans un périmètre de 1000 mètres, ce qui laisse supposer que ce pourrait être une origine volontaire.
Toutefois, le parquet de Fontainebleau précise qu'une enquête est en cours. Il y a des éléments troublants, mais à cette heure, on ne peut pas affirmer qu'il y a eu une intervention humaine. En revanche, ce qui est certain, c'est que de tels feux ont un allié puissant, le climat.
Totalement exceptionnel, totalement inédit, et qu'on impute évidemment à la situation climatique que nous connaissons, à la sécheresse, et on voit bien que la ligne des feux de forêt et des feux de végétation d'une manière générale remonte. On n'est plus seulement dans le sud, on l'a vu en début de la saison des feux avec la région Centre-Val de Loire qui a beaucoup été impactée, et aujourd'hui donc c'est la forêt de Fontainebleau.
Entre la journée de dimanche et celle de lundi, Météo France a placé 37 départements en vigilance maximale canicule dans un triangle qui relie le Tarn au sud, le Val d'Oise au nord et le Morbihan à l'ouest. Des départements en vigilance rouge dont le nombre ne diminue que dans la nuit du lundi. Et c'est déjà la troisième canicule depuis le début de l'année, un cocktail explosif pour les incendies.
Cette végétation au sol qui a complètement cramé, si vous voulez, ces dernières semaines.
Kevin Fleury, journaliste météo-climat à BFM TV.
Après trois canicules depuis la fin du mois de mai, des températures extrêmement élevées et malheureusement l'absence de pluie, la sécheresse atteint des niveaux records au sol et malheureusement, dès qu'un incendie se déclare, ça peut aller très vite. Sur plusieurs centaines de mètres, vous avez le front de flammes et de fumée et cet épais nuage de fumée qui semble plaqué au niveau du sol, signe de la virulence des vents, les vents qui ont été très forts et qui le resteront aujourd'hui.
Ce lundi, il y a eu un nouveau départ de feu près de la ville de Fontainebleau. Rien que pour la journée de la veille, 250 départs de feu avaient été recensés sur l'ensemble du territoire, dont une trentaine de feux critiques. Bonjour Guillaume Péguer.
Bonjour.
Vous êtes en charge de la prévention des risques naturels à l'Office national des forêts, l'ONF. Un incendie touche donc Fontainebleau, mais il y a aussi Rouen, Orléans, une extension du domaine du feu de forêt qui devient un risque national.
Oui, tout à fait. C'est un problème qui est bien identifié dans la stratégie de défense des forêts contre les incendies de l'État. Et parmi l'interservice qui gère cette politique, on a l'Office national des forêts qui a bien pris la mesure de l'extension de ce risque avec une mission d'intérêt général. Donc cette mission que l'on menait dans 15 départements avant 2022 a été étendue à 86 départements aujourd'hui. Donc cette extension du risque incendie, elle est connue et on a aujourd'hui une extension de la prévention qui est, je dirais, en miroir de cette extension du risque.
On va venir à la prévention, mais il y a aussi cette extension du domaine de la lutte très concrète face aux flammes. Qu'est-ce que ça change de lutter contre des incendies qui touchent des régions qui n'y sont pas habituées ? Est-ce que les moyens actuels sont adaptés à ça ?
Alors, l'Office national des forêts intervient sur la prévention et intervient pas dans la lutte. La lutte, c'est le domaine des pompiers. Alors, dès lors qu'on a un incendie, ce sont les pompiers qui sont en charge de la lutte. Nous, à l'ONF, on va appuyer les sapeurs-pompiers par notre connaissance du terrain, en les aidant dans la cellule anticipation, dès lors qu'il va y avoir un poste de commandement mis en place par les pompiers, avec un cadre qui sera auprès du commandant d'opération de secours.
L'anticipation, ça passe donc par la surveillance. Est-ce qu'on détecte aujourd'hui mieux les départs de feu qu'auparavant ?
Oui, on les détecte mieux. Si on regarde un peu à l'échelle des 30 dernières années, peut-être même des 50 dernières années, on voit que dès lors que la politique de défense des forêts contre les incendies et toute cette prévention a été mise en place, on va dire, ça a commencé dans les années 70, mais ça s'est vraiment mis en place au niveau national dans les années 90, donc d'abord plus sur le pourtour méditerranéen, aujourd'hui au niveau national, on voit que le nombre d'hectares brûlés a largement diminué, puisqu'avant les années 90, on avait On avait des années qui étaient facilement à 50 000 hectares de végétation brûlée. Aujourd'hui, quand on a une année à 20 000, c'est déjà une grosse année.
Donc là, l'anticipation et la prévention de ces risques passent donc par l'ONF, par vous. Quels sont les principaux leviers que vous avez? C'est l'entretien des forêts sur lequel il faut travailler?
L'ONF va intervenir à deux niveaux. D'abord, dans sa gestion, dans la gestion des forêts publiques, avec la mise en place d'une diversification la plus large possible pour rendre les forêts résistantes et résilientes.
Quand on a des essences d'arbres différents, ce sont des forêts qui résistent mieux au feu, en gros.
Tout à fait. Quand on a des essences, on a des forêts qui peuvent être plus résistantes, plus résilientes.
Comment ça se fait ?
Parce qu'on a des essences qui peuvent être plus résistantes. C'est par exemple le cas du chêne-liège dans le sud de la France, qui, avec son écorce, résiste plus longtemps. Et puis, on a d'autres essences, comme certaines essences de pin, pour lesquelles le feu permet d'ouvrir les cônes et de libérer les graines. Et donc là, on a une autre forme de résilience. Voyez, on a deux stratégies de deux essences différentes. Plus on a une diversité d'essences avec des âges différents, des peuplements différents, des essences différentes, plus on a une forêt résiliente. Et puis, on a aussi une forêt, une diversité. On cherche aussi la diversité dans le paysage forestier, avec des zones plus denses, des zones coupe-feu, donc où on aura moins de végétation, des zones humides. En fait, plus on a une diversité dans les essences et dans les paysages, et plus la forêt sera résistante et résiliente. Donc ça c'est l'aspect gestion. Et puis on a donc cette mission qui nous est donnée par le ministère en charge des forêts, cette mission d'intérêt général pour le compte de l'État dans le sud de la France toute l'année, avec des ouvriers forestiers spécialisés qui entretiennent les pistes, qui entretiennent les forêts, qui entretiennent les cuves, défense des forêts contre les incendies, etc. Et puis on a, durant la saison estivale, des patrouilles de surveillance et d'intervention qui sont sur un pick-up avec 600 litres d'eau, qui vont faire des circuits et qui vont surveiller les massifs, qui vont surveiller et identifier si on a un départ de feu, prévenir les pompiers, avoir un regard professionnel sur un départ de feu. Et puis, avec 600 litres d'eau, on peut mener une première action sur un départ de feu. Et puis, on a des patrouilles qui vont faire de la pédagogie. On a des patrouilles qui vont également faire des missions de police. Voilà, donc ça, ce sont nos patrouilles. On a aussi une mission de surveillance de la végétation avec la qualification de la sensibilité de la végétation. Et puis, il va y avoir un travail de coordination, un travail d'appui au service de l'État. Donc ça, on est durant la saison feu. Et puis bon, ensuite, dès lors qu'il y a un incendie, on va conseiller le commandement d'opérations de secours pour la partie anticipation. Et puis une fois que le feu sera éteint, on interviendra également sur différentes missions. D'abord, une cartographie par satellite des feux qui nous permet de faire un retour d'expérience. On intervient dans les cellules de recherche des causes et des circonstances des incendies, donc avec nos collègues pompiers et policiers, afin de déterminer d'où et comment est parti l'incendie. C'est ce qui nous permet de dire et de marteler et de rappeler que 90% des feux sont d'origine humaine, et donc on a un vrai levier d'action à ce niveau-là.
Vous parlez des feux qui sont majoritairement d'origine humaine. Quels sont les leviers ? C'est la pédagogie, il y a des messages à faire passer aux citoyens qui ne sont pas entendus. On a pourtant l'impression que c'est martelé chaque année. On ne jette pas de cigarettes par la fenêtre de sa voiture. Attention au barbecue dans les zones sèches. Les gens ne les entendent pas ?
Alors, on a un travail de pédagogie à faire pour faire émerger une culture du risque au niveau national. Voilà. Cette culture du risque, elle existe dans certaines zones, dans les zones qui font historiquement face au risque incendie. Cette culture du risque, elle passe par le respect de la réglementation, par ne pas aller dans les massifs lorsqu'ils sont fermés, se renseigner avant d'aller faire une promenade en forêt. Est-ce qu'on peut aller dans le massif ? Est-ce que qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. En l'occurrence, on ne fume pas en forêt, on n'allume pas de barbecue en forêt, effectivement, on ne porte pas de feu en forêt. Donc ça, c'est vraiment ça, l'aspect réglementation, c'est quelque chose d'important, il faut bien se renseigner. Ensuite, on a l'aspect météo. Quand on a une météo qui est particulièrement sèche, comme aujourd'hui, on va voir le site sur la météo des forêts. Et puis, après, ce sont des règles de bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'habite à moins de 200 mètres d'une forêt, si je suis dans un secteur qui risque, où il y a un risque incendie, si j'identifie, même si je ne suis pas dans un secteur un risque feu de forêt, que j'identifie qu'il y a potentiellement un risque, eh bien, je ne vais pas utiliser d'outils qui va générer des étincelles, d'outils rotatifs, de meuleuses ou de ce genre de choses pour ne pas risquer de mettre le feu et de générer un incendie.
À ce sujet, est-ce que selon vous, il faut revoir l'aménagement du territoire, éloigner un petit peu plus les habitations des forêts, quand on sait qu'avec le dérèglement climatique, des forêts du nord du pays vont être de plus en plus victimes de ces feux ?
Dès lors qu'on va avoir des habitations qui vont être situées à moins de 200 mètres d'un massif classé et qui vont être soumises aux obligations légales de débroussaillement, là, il va falloir, là, nous, notre rôle, ça va être de contrôler ces OLD, enfin, dans un premier temps, de faire de la pédagogie pour expliquer si on est dans une zone nouvellement soumise aux obligations légales de débroussaillement. Et puis, une fois qu'on aura fait de la pédagogie, on passera à un aspect plus répressif avec potentiellement des verbalisations à la clé.
Parce que ce principe, cette obligation de débroussaillement, c'est un bon principe, mais ce n'est pas effectif, pas assez.
Les obligations légales de débroussaillement sont historiques, sont connues. Dans le sud de la France, c'est un dispositif qui est connu. Dans certains nouveaux territoires, les obligations légales de débroussaillement sont mises en œuvre depuis une, deux, trois années, depuis finalement relativement peu de temps. Donc il y a quand même tout un travail d'explication, d'expliquer comment on fait, comment on crée cette discontinuité pour éviter pour limiter l'intensité de l'incendie. D'ailleurs, que ce soit un incendie qui parte de la maison ou qui arrive vers la maison, puisque en fait, dans nos statistiques, nous, ce qu'on se rend compte, c'est que dès lors qu'on a une maison une habitation qui respecte ses obligations légales de débroussaillement, elle a nettement moins de risques d'être touchée par un incendie qu'une maison qui ne les respecte pas. Donc, il va y avoir tout un travail de pédagogique pour expliquer comment on les fait et pourquoi on les fait. Voilà. Et à quel moment on les fait. En plein cœur de l'été, c'est plus du tout le moment de faire ces OLD. Aujourd'hui, on peut déplacer un tas de bois si il est encore à proximité de la maison. On peut retirer la végétation qui est sur le toit de la maison, mais on ne va pas couper de la végétation. C'est plus le moment. Par contre, cet hiver, ce sera le moment.
Merci Guillaume Péguer d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Nel Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.